La permanence de mon moi que de celui que j'ai été à 14 ans et demi à 37 ans, ou quand même j'ai un peu de ce temps. C'est-à-dire un acquis de l'expérience qui mène à un acquiescement à l'évidence et qui ne vient pas de l'intelligence pure et simple, mais de l'intelligence informée par la vie, purement et simplement, je tenais à dire cela. Sur ce que je disais immédiatement avant, c'est le fait que vous avez dû remarquer que dans le temps contemporain que nous vivons, il y a différentes raisons à différents niveaux pour cela. Mais il y en a une que je veux mettre en évidence de façon centrale. Eh bien, énormément de gens parlent de Kabbalah. J'entrais dans n'importe quelle librairie, vous avez des livres à votre disposition, vous avez l'université, vous pouvez choisir des unités de valeur, comme on appelle ça. Alors que moi, je me souviens quand j'étais enfant, et certains dans la salle pourront le témoigner, c'était vraiment secret terre. Absolu. Secret complet. Je vais raconter une petite anecdote. Il y avait dans la ville où je suis né deux familles, deux bêtes midrash, où on s'occupait de ces choses-là. Et l'un ne savait pas que l'autre s'en occupait. C'est au hasard d'une conversation 30 ans après, quelqu'un a fait un lapsus sur un mot. Alors on s'est dit, ah tiens, tu sais de quoi il s'agit. Ah oui, et toi aussi, comment ça se fait? C'est-à-dire, nous avions des manuscrits, nous avions des livres imprimés, mais que personne ne comprenait. Et puis, son dictionnaire, son encyclopédie, sans rien du tout. Et puis, finalement, les kabbalistes ont décidé d'éditer tout. Et vous savez, quand on édite un livre, c'est un risque mille fois plus grand que lorsqu'on fait un cours en public. Je pense que c'est clair. Et pourtant, ça veut dire qu'il y a un secret, une secrète décision, qu'on est arrivé à un temps, il faut que tout cela soit mis entre les mains de tous, donc il n'y a rien commun. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Et l'objet de ce séminaire, c'était surtout d'essayer d'élucider en français, puisque c'est notre langue culturelle d'exil, le vocabulaire beaucoup plus que d'étudier telle ou telle question en elle-même. Quand vous commencez à étudier ce que vous souhaitez, vous verrez qu'il faut vraiment qu'avant le sens. Je pense que c'est suffisamment clair. Il y a un infini de connaissances qui doivent être organisées, et j'ai essayé, en les mettant entre parenthèses, de les organiser de la manière la plus simple, corollairement à l'habitude que nous avons de poser ces problèmes au niveau du langage, de la philosophie générale, de la culture. Alors il me reste quelques phrases concernant les Gilgoulim. Vraiment que quelques phrases. C'est un sujet qui demanderait plus qu'un séminaire. En résumant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'être de créature est donné à restaurer une intégrité du projet du créateur. Le tikkun, c'est d'abord le tikkun de mon effet de créature. Mon effet, ma personne de créature, se définit comme être selon l'être. C'est ça qu'il faut arranger. A priori de toute faute et de toute idée de circonstance d'expiation d'une faute. Donc, je crois qu'il y a, c'est important, un premier projet du tikkun qui n'a rien à voir avec l'éventualité du faute. Et, en principe, quoique je me suis surtout basé sur le Charal Gilgoulim du Moncrof, du Raphaël Vital, mais dans d'autres textes aussi, on indique cela. En principe, une vie suffirait à faire ce tikkun, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, de gravir ces différents niveaux de l'acquis, de l'imitation au créateur. Et si, dans ce métier d'homme, de l'existence dans une vie, il y a eu des takalot, il y a eu des averot, alors il arrive qu'on achève cette première vie à un stade X de ce processus, on reprend ce processus là où on l'avait laissé, dans le Gilgoul suivant. C'est très schématique ce que je vous ai dit là. C'est vraiment très schématique parce que c'est plus complexe. Il y a différentes sortes de Gilgoulim, il y a le Hibou, il y a le Gibou, c'est très riche dans le détail. Mais voilà quel est le principe. Il y a d'abord un petit compte qu'il faut faire a priori de toute faute. Et ensuite, il y a la nécessité de reprendre l'ouvrage là où on l'avait laissé, jusqu'à le mener à sa perte. Là-dessus, vous avez posé un problème important. Hein. C'est comment se relie le processus de la destinée individuelle et le processus de la destinée collective. J'ai beaucoup étudié ce problème et je vais essayer de le schématiser un peu. Là encore, il faut faire un effort de générosité de la pensée, si j'ose dire. Toute l'histoire de l'humanité tout entière, et pas seulement d'Israël, Israël étant un des organes de l'humanité, un organe privilégié, si vous voulez, mais un des organes de l'humanité, c'est l'histoire du Gilgul de Adam Arishon, des Gilgulim de Adam Arishon. Dieu a créé Adam. Il a distribué l'histoire de ce Adam en autant de destinées individuelles qu'il faut pour se partager le travail. Si j'en veux. Et puis finalement, la récapitulation dont je vous ai parlé, moi jusque-là, c'est la récapitulation de l'histoire de l'universel. Et donc il y a une rencontre à un certain moment de l'histoire, Triadam et Timsi. Lorsque le jugement sur l'histoire d'Adam Arishon de ce monde-ci, Olam Hazé, ça veut dire le Olam de Adam, le Olam de celui-là, Hazé, Hazé c'est pas sur le Olam, c'est sur le Adam, de Adam Hazé, Olam Abba, c'est le Olam de celui qui vient, c'est le Olam du Haba, de celui qui vient, ou bien du Fils de l'homme, eh bien, il y a une rencontre. Et qu'à ce moment, le monde est transfiguré à l'échelle universelle. Et quiconque, à quelque stade où il soit arrivé de l'histoire de sa propre destinée individuelle, vient recevoir son salaire dans le salaire collectif. C'est-à-dire, d'une part, nous avons cette perspective de vagues successives, de neshamot qui sont envoyées dans le monde, jusqu'à ce que toutes les neshamot de la neshama du premier homme soient mises en jeu dans l'histoire, et par conséquent, il y a une égalité de niveau à chaque instant, une égalité absolue. Mais d'autre part, il y a la rencontre. Cette destinée globale arrive à échéance, si j'ose dire, à maturité, et à ce moment-là, de même qu'il y a une hiérarchie des cellules dans l'organisme d'un organisme individuel, mais que c'est un organisme unique, de même, la destinée collective, universelle de toute l'humanité se trouvait transfigurée, chacun à sa place. Et c'est pourquoi on parle de René, voilà. Et là, les kabbalistes ont beaucoup insisté. On ne peut rien comprendre au sens de la destinée individuelle. Si on n'est pas d'abord le sens de la destinée de Adam tout entier en question. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire sur ce point. Un des principaux enseignements sur les Gilgulim nous a été donné par un grand kabbaliste de Bagdad. Et je ne vais pas trop charger d'érudition. Il a été atteint par la mort de ses deux enfants, jeunes. Ça l'a tellement secoué qu'indépendamment de la foi habituelle des Talmidei Chachamim, des Tzadikim, que ça l'a mené à réfléchir et à approfondir ce problème. Jusqu'à ce qu'il a découvert le lien que j'essaye de faire le plus simple entre la notion de Gilgulim et le sort apparemment injuste donné à l'individu. Indépendamment du fait que le fonctionnement du monde en lui-même, et tout ceci se réfère à l'enseignement aussi de Maïmonide sur le Gilgulim, le fonctionnement du monde en lui-même amène toute une série de mal, de mots MAX, qui vient du fonctionnement du monde. C'est une des clauses du contrat, si je dis. Si vous avez longtemps, je vous citerai les références à ce sujet, mais je garde le principe en général. Si déjà il est acquis, il faut qu'il y ait un monde pour que l'homme soit situé dans sa salle d'examen, alors il y a un fonctionnement du monde. Et ce fonctionnement du monde peut amener des faits de type scandaleux par rapport à notre sujet, par exemple que les hommes ne vivent pas la même quantité de vie, alors que dans le projet de leur destinée, ils devraient vivre la même quantité de vie. Et alors, une des réponses qu'il a données, en particulier sur la question de la souffrance, et j'ajoute de la mort des enfants en bas âge, c'est que finalement, à chaque Gilgul, chacun ne revient que pour une tâche bien précise. Et une fois que cette tâche est accomplie, c'est l'accomplissement de ce qui restait à accomplir, leur destinée est achevée. Alors voilà, la connaissance, dans le détail, de la destinée individuelle de chacun échappe à la sagesse en général. Elle est la sagesse propre de chaque maître pour ses disciples, de chaque, à la limite, c'était de chaque père pour ses enfants. C'est-à-dire, et nous avons des exemples de cas concrets qui nous sont donnés, en particulier dans le Shabbat. Mais en fait, le problème qu'il y a à résoudre, la tâche à accomplir ne se dévoile que lorsqu'on est au terme. Et je termine aujourd'hui sur quoi j'avais terminé la dernière fois. 1000 chances nous sont données et 1000 se récapitulent à l'infini. On retrouve la primauté du moral sur le métaphysique, parce que le métaphysique exigerait que si c'est échec, alors que le moral exige que s'il y a échec, il y a session de rattrapage possible, si je veux dire. Et ce n'est qu'à la dernière que l'on sait que ce devoir de connaître. Et là, c'est ce qui nous explique le profil de l'identité des maîtres, c'est-à-dire ceux qui ont achevé l'article, mais qui sont cependant là pour guider les autres. C'est une dimension importante du problème. Alors, ce que je veux dire, c'est ça. Étant donné que ces notions ne sont vécues en toute lucidité que par qui en a expérience par lui-même, c'est la raison pour laquelle vous entendrez en général des rabbins, et c'est légitime, que la croyance au bilgoulim n'est pas obligatoire dans la foi juive, et c'est vrai, la règle est ainsi. J'essaie d'expliquer pourquoi, parce qu'on aura obligatoire un acte de foi que pour celui qui est capable d'expérimenter de quoi il s'agit. Et alors il adhère ou il n'adhère pas, c'est sa liberté propre qui le décide. Le modèle émouna en hébreu, ça veut dire premièrement adhésion. Mais pour pouvoir adhérer, il faut être dans le cas de pouvoir adhérer. Et il n'y a pas de piège dans la Torah. C'est la raison pour laquelle les grands maîtres du judaïsme, à travers surtout les grands du Moyen-Âge, ont pied à pied disputé sur le nombre des articles de foi et l'ont ramené finalement à un, pour ne pas mettre trop d'obstacles à l'adhésion. Parce que, avec le temps, la connaissance diminue. Avec le temps, nous sommes loin de la source de l'évidence. Et alors qu'au début, tous les actes de foi, finalement, de notre temps, c'est d'ailleurs la fin du Moyen-Âge, c'est en particulier Albo, qui formule qu'en fin de compte, il y a un acte de foi, Torah Min HaShamayim. On récupère tout le reste, parce que dans Torah, il y a tout. Mais si quelqu'un d'ici dit « Ah, ça, je ne crois pas », ben, il ne cesse pas d'être membre de la communauté. Simplement, il y a une idée qu'il n'arrive pas à comprendre. Si on faisait partie de la communauté à cause d'une adhésion ou d'une non-adhésion à telle ou telle idée difficile, ce serait une communauté impossible. Par conséquent, c'est par un tout autre critère que la communauté se définit. Par les hommes et les femmes qui sont dans l'histoire de cette communauté qui s'appelle Israël, qui font partie du peuple qui s'appelle Israël. Et chacun à son niveau est jugé d'après ses capacités. La règle est de faire. On est soumis à l'obligation si on est par sa nature dans les conditions de remplir l'obligation. Si on n'est pas dans les conditions de remplir l'obligation, on n'est pas soumis à l'obligation. Seulement, il est clair que l'enseignement du judaïsme, sans l'équilibre, reste mystérieux toutes les questions que l'on se pose à propos du problème du mal. Avec l'enseignement des Nicolines, nous y trouvons réponse. D'accord ? Voilà, je souhaite que ce séminaire vous enrichisse, en tout cas moi, il m'a beaucoup enrichi. C'est pas une figure de style. À force de donner, on reçoit beaucoup. Et je vous donne rendez-vous au prochain séminaire après le programme. Et. Les crowds.